soient les chemins par lesquels le Seigneur jugera bon ou utile de nous faire passer, que ces étapes puissent être une victoire. Victoire de notre foi et victoire du Seigneur lui-même dans nos vies. C'est vrai qu'on m'a demandé de vous parler ce matin des dons. Alors, ce n'est pas évident, je vais vous dire pourquoi. Parce que parler des dons nécessite d'avoir un temps imparti qui soit plus important, disons, que les 25 minutes à peine dont je dispose. Alors, surtout que si j'ai bien calculé, déjà il est déjà moins 5. Donc, je n'ai pas la prétention et je n'ai même pas l'intention d'effleurer peut-être 10, voire 15% de ce que j'aurais voulu vous dire. Parce que les dons, c'est quelque chose de très important dans le Nouveau Testament et c'est quelque chose qui touche chacun d'entre nous. Alors, on m'a parlé évidemment de. On m'a demandé évidemment de vous parler sur la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12. Mais il faut savoir qu'il y a aussi l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12 qui donne toute une liste de dons. Par exemple, dans l'épître de Paul aux Romains, on trouve 7 dons spirituels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chrétien, chaque chrétienne a reçu un don. Je répète parce que ça me semble important, chaque chrétien, chaque chrétienne à sa nouvelle naissance a reçu au minimum un don. Et évidemment, ce que Dieu attend, c'est que nous exercions ce don. Combien d'entre vous, ce matin, connaissent le don que Dieu leur a donné? Alors, le temps me manque pour vous demander d'y réfléchir, de lever la main, mais je reste quand même persuadé qu'il y a peut-être la moitié, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas, présents parmi nous ce matin, qui ne connaissent pas le don que Dieu leur a donné. Et je dois dire que c'est désolant. Chaque chrétien a un don spirituel. À notre naissance, Dieu nous a dotés de certaines facultés naturelles. À notre nouvelle naissance, nous avons reçu des facultés spirituelles en tant que membres du corps de Christ. Et c'est ce que Paul dira aux Romains, au chapitre 12. Il dira au verset 5, « Nous qui sommes plusieurs, l'Église, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc, je ne reviens pas là-dessus, je pars du principe que vous avez bien noté ce que je viens de dire, vous avez reçu obligatoirement au minimum un don. Chaque chrétien, chaque chrétienne a reçu un don. La deuxième chose qui me semble importante de vous dire, c'est que la joie chrétienne qui est importante, vous savez, quand David pêche, il aura cette prière, il dira « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut ». Et je crois qu'un chrétien est quelqu'un qui est joyeux de nature, en tout cas dans son cœur. Et cette joie, nous dit l'apôtre Paul, ne peut venir qu'en exerçant le don que Dieu nous a donné. Alors, en grec, c'est le mot « charisma » qui désigne le don. Et il provient du mot « char », C-H-A-R, « char », qui veut dire, en grec, « joie ». Charis, c'est le mot qui désigne la grâce par laquelle Dieu nous donne le désir et le pouvoir d'accomplir sa volonté au travers du don qu'il nous a donné. L'apôtre Paul dira aux Philippiens au chapitre 2, c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son désir bienveillant. Troisièmement, ce que je voudrais dire, c'est que un sentiment de plénitude n'est possible dans la vie chrétienne qu'en développant ce don spirituel que Dieu nous a donné. Si je vous posais cette question ce matin, qui d'entre nous désire, pendant cette année 2020, s'épanouir ? Il me semble que personne ne resterait avec la main baissée. Nous avons tous ce désir en nous, le désir de s'épanouir. Eh bien, quand on est chrétien, quand on est chrétienne, c'est en participant au plan de Dieu que nous le pourrons pleinement. Et ce programme divin est réalisé au travers du corps de Christ par le bon fonctionnement du don de grâce que Dieu nous donne. Chaque don est prévu pour parfaire le corps de Christ. C'est la quatrième chose qui me semble importante. Chaque don est prévu pour parfaire le corps de Christ. Regardez, observez notre corps. Observez comment notre corps a été fait par Dieu. À l'image des membres de notre corps, avec leurs fonctions différentes, chaque chrétien, chaque chrétienne a dans l'Église une fonction particulière, une fonction qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que celui ou celle qui n'exerce pas le don que Dieu lui a donné affaiblit le corps de Christ. Ce que je dis là est fort, mais c'est une vérité que vous devez savoir. En n'exerçant pas le don que Dieu vous a donné, vous affaiblissez le corps de Christ. Imaginez-vous l'espace d'un instant. Je dis, cette année, j'ai décidé que je ne me servirai plus de ma main droite. Donc, cette main droite, je la mets dans ma poche. Imaginez-vous, avec une main, ce que je peux faire. Je ne peux même plus rentrer chez moi. Je tiens le volant, mais comment je passe mes vitesses ? Je ne peux plus passer mes vitesses. Les choses deviennent compliquées. J'ai besoin de ma main droite. J'ai besoin de ma main gauche. Et dans l'Église, Dieu a besoin de chacun de nous pour accomplir son plan. Je le répète, Dieu vous a donné un don au minimum. Et ne pas exercer ce don, c'est affaiblir le corps de Christ. Donc Dieu veut que chacun et chacune de nous comprenne son don. Si nous devons nous concentrer sur notre don, nous devons tout d'abord savoir lequel est-ce. De même, si nous voulons vivre en harmonie avec les autres, à l'intérieur du corps de Christ, nous devons savoir quelles sont leurs fonctions propres. Je dois savoir quelles sont vos fonctions et vous devez savoir quelle est la fonction que j'exerce. Alors, écoutez le texte que vous m'avez proposé. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, diversité de services et diversité d'opérations. Il y a donc la grâce. La grâce, c'est le pouvoir et le vouloir de Dieu. C'est ce que Dieu a placé en nous pour exprimer son amour. Et puis il y a les ministères. Les ministères, c'est la mise en pratique. Diakonion en grec. C'est les occasions que Dieu me donne pour servir. Le Seigneur, en mettant en pratique notre don de grâce, nous donne l'occasion de le servir. Ensuite, il y a les effets. Dieu donne, c'est la grâce. Je mets en pratique, c'est les ministères. Et il y a les effets, qui sont les manifestations. Les résultats de notre service dans la vie des autres, selon la volonté du Saint-Esprit. Alors, il est intéressant de savoir que les Écritures placent les dons dans leur catégorie propre. Il y a les dons de grâce, il y a les ministères, c'est le sujet pour lequel vous m'avez demandé de parler, mais comme je suis le premier à prendre la parole sur les dons, il faut évidemment que je cadre ces ministères dans le cadre. Je ne peux pas vous parler des ministères sans vous parler des dons de grâce. Voyez, je suis obligé de faire... mon professeur m'aurait dit, Jean-Claude, ce n'est pas une introduction que tu viens de nous donner, c'est un prolégomène. Une fois, j'ai dû défendre un devoir que j'avais fait en théologie, et j'ai fait une introduction qui a duré 10 minutes. Et le professeur m'a regardé et m'a dit, mais monsieur Chong, ce n'est pas une introduction que vous nous avez fait, c'est un prolégomène. Un prolégomène, c'est une introduction qui est très longue. Donc je suis obligé de faire ce prolégomène parce que ça rentre dans un cadre. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand j'exerce le don que Dieu m'a donné, quand j'exerce le ministère que Dieu m'a confié, Dieu bénira le fruit de mon travail. Alors, attention, j'ai bien précisé, quand j'exercerai ce don, ce ministère, c'est Dieu qui bénira le travail. C'est pas moi, c'est Dieu. Hein ? C'est le fruit, c'est le don que Dieu m'a donné. Et la huitième chose que je voudrais dire, qui me semble importante, c'est que nous ne devons pas rechercher en premier les manifestations. Nous devons nous concentrer sur ce don de grâce ainsi que sur le ministère qui l'exprimera le mieux. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira aux Corinthiens au chapitre 13 « Recherchez l'amour et aspirez aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie ». Et le don de prophétie, justement, c'est le don que vous m'avez demandé de traiter. C'est le don que vous m'avez demandé de traiter, puisque vous le savez, je pense, quand j'exerce le don que Dieu m'a donné, eh bien, je mets en pratique ce que le Seigneur me demande de faire. Je proclame cette vérité. Je désire dévoiler l'esprit du mal en présentant la parole de vérité. Et je pense là à cette parole de Jésus qui dit, moi, je suis la vérité. Alors, quand évidemment on a ce don de proclamer la vérité, d'enseigner, d'exhorter, il y a une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, évidemment, c'est d'être persuasif. Avez-vous déjà noté que quand Jésus enseignait, il ne disait jamais « je pense, il me semble que, c'est une hypothèse ». Il disait « c'est comme ça, et pas autrement ». Jésus n'a jamais dit « je suis un chemin parmi 20 autres ». Il a dit « je suis le chemin ». La vérité. Il était donc persuasif, ce qui fait que les gens disaient « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il faut être persuasif, il faut mettre en lumière les choses qui étaient auparavant cachées, révéler les secrets du cœur de l'homme qui le poussent à se prosterner, à louer Dieu. Et je dirais que s'il y a quelqu'un parmi nous qui a ce don d'enseigner, d'exhorter, eh bien, une des premières choses qu'il doit faire, c'est aimer sans hypocrisie. C'est avoir le mal en horreur, c'est s'attacher fortement au bien. Et évidemment, il y a un danger, il y a un abus. Le premier abus, vous l'avez compris, je pense, c'est être fier de sa rhétorique, c'est être fier de ce qu'il fait. Moi, j'avoue très franchement qu'au début de mon ministère, il y a maintenant plus de 40 ans, quand j'étais jeune pasteur et que je prêchais et que je me tenais à la sortie, que je serrais les mains des gens en leur souhaitant un bon dimanche, les gens évidemment me remerciaient et souvent les gens me disaient, et me le disent d'ailleurs encore souvent, « Merci monsieur le pasteur, j'ai beaucoup apprécié votre prédication, c'était super bien. » Et ça me mettait mal à l'aise, ça me mettait mal à l'aise parce que je ne savais pas trop bien ce qu'il fallait dire. Alors bien sûr je disais merci, mais c'est un peu délicat. Parce qu'il y a ce côté, ouais, c'est gentil, ouais, j'ai bien fait, quoi. Donc, c'est d'être fier de sa rhétorique, et ça, c'est un danger. Et puis, le deuxième danger, c'est de devenir plus dépendant de sa facilité d'élocution que de l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige. Il n'y a que lui qui peut le faire et qui le fera. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé en plus de 40 ans de ministère, ça m'est arrivé qu'une fois. Et je me souviens avoir dit au Seigneur, « Seigneur, si tu pouvais m'éviter ça dans mon ministère, une fois c'est bien, deux, ça sera trop. » Mais que ta volonté soit faite, hein. Mais ça m'est arrivé qu'une fois. Le pasteur était là, il faisait chanter, comme notre frère l'a fait tout à l'heure, et puis moi j'étais assis derrière, et plus le temps approchait de prêcher, plus je me sentais mal à l'aise avec la prédication que j'avais préparée. Et ça allait en empirant, et je peux vous assurer que c'est terrible quand ça arrive, hein, parce que vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Seigneur, il y a un truc là, je n'ai pas la paix, Seigneur. Ça va... Et puis, à un moment donné, le pasteur dit, ben, on remercie le pasteur Chong d'être avec nous, maintenant c'est avec joie que je lui cède la parole. Et je suis arrivé tout tremblant, et j'étais complètement paumé. Et en l'espace d'un quart de seconde, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Et là, vous ne me croirez pas si vous le voulez, mais pourtant je vous assure que c'est la vérité. J'ai ouvert la Bible, et j'ai lu le premier passage qui me venait à l'esprit. Et puis les mots sortaient tout seuls. Et à la fin, je me tenais à la sortie, comme d'habitude, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a serré la main, elle m'a dit, est-ce que je peux vous voir, monsieur le pasteur ? J'ai dit, oui, bien sûr, madame. Donc on s'est retiré dans une pièce, et elle m'a dit, mais je ne vous connais pas. Je lui ai dit, oui, moi non plus. Elle m'a dit, mais vous avez fait que de parler de moi. Et c'est exactement ce que je voulais entendre. C'est exactement la réponse que j'avais demandé que Dieu me donne. Seigneur, réponds-moi. Vous voyez, on peut être fier de sa rhétorique, et quand on a une certaine rhétorique, on peut faire confiance à cette rhétorique. Mais l'important, c'est de faire confiance au Seigneur. Alors, c'est pour les dons. Alors, vous voyez, j'ai ici 15 pages. Malheureusement, il est déjà midi et quart. On ne peut pas arrêter cette pendule, là. Je vais juste malheureusement m'arrêter parce que j'ai pas le temps d'aller autrement et je suis vraiment désolé, mais je voulais vous donner une petite image. Imaginons maintenant une famille de 7 personnes par lesquels nous retrouvons ces 7 dons dont il est question dans l'Épître aux Romains chapitre 12 et dans 1 Corinthiens 12. Ils sont à table et l'un d'entre eux apporte le dessert. Et en apportant le dessert, il le fait tomber à terre. Et voilà comment chacun d'eux va réagir. Celui qui a le don de prophétie va dire, eh ben voilà, voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Et l'idée ici, c'est quoi ? C'est de corriger les défauts. Ça, c'est le don de prophétie. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas attention. Et l'idée, c'est de corriger les défauts. Celui qui a le don de serviteur. Laisse-moi t'aider, je vais nettoyer. L'intention ici, c'est quoi? C'est de rendre service. Celui qui a le don d'enseignement, qu'est-ce qu'il va dire? Celui qui a le don d'enseignement, il va dire, eh bien écoute, c'est très simple. C'est tombé par terre, parce que si tu regardes bien le plat, tu remarqueras qu'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre et que tu aurais dû équilibrer le gâteau. Vous voyez, l'idée ici, c'est de découvrir pourquoi le gâteau est tombé. Et puis, il y a celui qui exhorte. Celui qui exhorte, comment va-t-il réagir? Eh bien, il dira, la prochaine fois, on apportera tous les plats et on les mettra sur la table. Donc, l'idée ici, c'est de donner un élément de correction pour que cela n'arrive plus jamais. Et puis, il y a aussi un autre don, quelqu'un d'autre que moi vous en parlera peut-être, puisque c'est le sujet. Celui qui a le don de donner. Celui qui a le don de donner, on en a besoin dans nos églises, de donateurs. Celui qui donne dira, bah, pas de problème, moi je suis heureux de vouloir vous offrir un gâteau, vous m'attendez 10 minutes, je file chez le boulanger, je vais chercher un autre gâteau. Donc l'idée ici, c'est d'apporter une réponse matérielle à un besoin qui est précis, le dessert. Et puis il y a le don d'organiser. C'est aussi un don dans Romains 12, dans 1 Corinthiens 12. Le don d'organiser. Celui qui a le don d'organiser, il va dire, bon, Jacques, va chercher la serpillière. Marie, file-lui un coup de main. S'il te plaît, nettoie avec moi. Suzanne, va préparer un autre dessert. Vous voyez, il va se mettre à organiser. L'intention ici, ce n'est pas de donner des ordres, mais l'intention ici, c'est d'organiser, c'est de répartir les activités afin qu'ils puissent ensemble parvenir au but qu'ils se sont fixés. Et puis enfin, il y a un dernier don dans 1 Corinthiens, c'est celui de la miséricorde. Le don de la miséricorde, c'est un don fantastique. Tous les dons sont fantastiques, hein. Il n'y a pas un don plus fantastique que l'autre. Mais ce don-là, il est merveilleux parce que c'est le don de la miséricorde. Celui qui a le don de la miséricorde ou celle qui a le don, elle va prendre la personne dans ses bras et elle va lui dire, mais oh, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, ça aurait pu m'arriver, te fais pas de soucis, allez, t'inquiète pas. Hein? L'intention, c'est quoi? C'est de mettre à l'aise. Vous voyez, tous ces dons-là sont donnés pour l'utilité commune. Et nous avons besoin de ces dons dans l'Église. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ça me semble vraiment très, très important. Nous avons tous et toutes reçu de la part de Dieu au minimum un don. Si tu ne connais pas le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Maintenant, il te reste plus qu'à le découvrir. Le problème, c'est si tu continues à ignorer ce don. Là, tu as un problème. Mais si tu ne connais pas ce don, demande à Dieu. Seigneur, je sais que tu m'as donné un don. Donne-moi ce don. Et puis, soyez sensible aux autres. C'est comme ça que j'ai découvert le ministère que Dieu avait pour moi, le ministère pastoral. Parce que dans l'église où j'étais, beaucoup de personnes allaient dans ce sens. Jean-Claude, je serais toi, je travaillerais mes prédications. Parce que tu as vraiment le don de prêcher. Et donc soyez sensibles à ce que vous disent les autres. Et vous découvrirez ce don. Et quand vous aurez découvert ce don, eh bien exercez-le dans l'église. Parce qu'encore une fois, et c'est dangereux, un chrétien ou une chrétienne qui est dans l'Église et qui n'exerce pas le don, eh bien, l'Église manque de quelque chose. Et c'est grave. Nous prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous te remercions de tout notre cœur. Parce que dans ta grâce et dans ta bonté, tu nous as accordé au moins un don. Seigneur, ce don que tu nous as donné, ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est pour le mettre au service de ton Église. Aide-nous à le découvrir, Seigneur, pour que nous puissions être en marche dans l'Église et que les voisins, les voisines et que le monde, que Montreuil sache que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.